La grande édition, Clémence Gourdon-Negrini, bonjour.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
L'enquête sur les suspicions de maisons de retraite illégales à Pentaligazinka se poursuit.
Tout comme la garde à vue du diacre qui doit être présenté à un juge dans la journée, il pourrait être mis en examen. Explication dans ce journal avec Alexandre Sanguinetti. Une grande édition très sportive ce midi, d'abord avec la défaite hier soir du GFC à voler contre Cannes. Pourtant les Ajacciens ont tout donné sur cette finale aller des playoffs. La Corse est décidément une terre de rugby. Cet été, deux équipes internationales de rugby à 7 viennent s'entraîner avant les JO. Ils ont en tête la victoire de l'Afrique du Sud à la Coupe du Monde après son passage sur l'île. C'est un peu moins gai, mais c'est le passage obligatoire chaque année. La campagne de déclaration des impôts a commencé et il y a des changements encore cette année. On vous explique tout avec le directeur des finances publiques de Haute-Corse dans ce journal. L'enquête se poursuit donc, tout comme la garde à vue du diacre soupçonné d'avoir tenu une maison de retraite illégale sur la commune de Pentadikazinka. L'homme âgé de 63 ans devrait être présenté dans la journée à un juge d'instruction. Alexandre Sanguinetti en vue d'une éventuelle mise en examen.
L'information judiciaire avait été ouverte avec des chefs assez nombreux. Travail dissimulé, blanchiment de travail dissimulé, fraude fiscale aggravée ou encore création sans autorisation préalable ou agrément d'une structure sociale ou médico-sociale. Autant de motifs donc qui pourraient donner lieu à une mise en examen dans la journée. Au terme de l'enquête préliminaire, l'homme a reconnu avoir organisé depuis plusieurs années l'accueil contre rémunération de personnes âgées au sein d'une maison spécialement aménagée. Difficile de savoir combien de personnes sont concernées. Les investigations se poursuivent, explique le parquet, pour déterminer avec certitude l'ampleur des faits et des bénéfices engrangés qui, à ce stade, précise encore le parquet, ne semblent pas avoir été déclarés à l'administration fiscale. Les premières informations circulant sur le sujet évoquaient des sommes de plusieurs centaines de milliers d'euros escamotées au fisc. Le diacre sera donc présenté dans la journée à un juge d'instruction pour une probable mise en examen et placement sous contrôle judiciaire, conformément en tout cas aux réquisitions du ministère public.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions et explications, Alexandre. 158 km/h au lieu de 80, c'est le carton rouge de la brigade motorisée d'Aléria ce week-end sur la T10. Le permis a été confisqué, le véhicule mis à la fourrière. Le conducteur sera bientôt convoqué au tribunal. Prudence d'ailleurs sur les routes, la vigilance jaune orage est toujours en cours en Haute-Corse et en Corse du Sud avec de la grêle par endroits. Le phénomène est valable jusqu'à demain minuit selon Météo France. Après la remise en liberté de la juge Gerhards, l'avocat général qui avait demandé son maintien en détention a désormais la possibilité de se pourvoir en cassation. La juge avait été en poste à Ajaccio de 2010 à 2016. Elle est mise en examen pour 11 chefs d'inculpation. La commune de Viljanilu a porté plainte contre le Civadec, plainte contre le syndicat de valorisation des déchets pour une suspicion de dysfonctionnement concernant les installations de l'ancien centre d'enfouissement. Cela fait suite à un épisode pluvieux le 11 mars dernier. La municipalité soupçonne une pollution du site. Le Civadec, lui, s'en défend. Une solution courante est mise en place, mais elle est ponctuelle et elle induit une réflexion à plus long terme pour le Civadec. C'est en tout cas ce qu'estime la directrice générale des services, Catherine Luciani.
Chaque année, pendant la saison des pluies, quand le niveau augmente dans le bassin de l'Ixivia, on fait ce qu'on appelle un traitement par osmose inverse. C'est-à-dire qu'on pompe de l'eau dans ce bassin, on la purifie, et la partie purifiée, nous avons l'autorisation de la rejeter dans l'environnement après contrôle, bien entendu, c'est de l'osmosée, lorsque donc les ruisseaux sont en eau, ce qui est le cas à la saison des pluies. C'est une solution, en fait, qui est une solution d'entretien courant qu'on met chaque année, mais qui n'est pas une solution définitive de vidage du bassin de l'Ixivia. Maintenant que le site est fermé depuis 3 ans, nous envisageons effectivement une solution de vidage qui sera différente, puisque là, on pompera la totalité du bassin pour la faire traiter à l'extérieur du site, et ensuite pour mettre en place une solution un petit peu plus pérenne pour limiter la réception des eaux de pluie dans ce bassin qui nous crée en fait des nécessités de traitement importantes chaque année.
La municipalité, elle, n'a pas souhaité s'exprimer alors qu'une enquête est toujours en cours de la part de la gendarmerie. C'est une publication scientifique qui ressemble à une petite bombe dans l'affaire du Levothyrox, ce médicament pris pour corriger les problèmes de thyroïde et qui est mis en cause depuis 2017 après que des milliers de patients aient évoqué des effets secondaires, des crampes, des vertiges, de la fatigue ou encore des troubles digestifs. Et bien cette fois, une étude franco-tchèque met en avant la présence de substances inattendues dans les cachets. Clément Suleda.
Il faut comprendre que cette étude est inédite par son ampleur. Elle a été faite grâce à 1000 boîtes collectées auprès de patients. Inédite aussi parce que les chercheurs toulousains et tchèques ont analysé pendant 5 ans le médicament dans son ensemble, pas juste une molécule. Ils ont fait plusieurs découvertes. D'abord, la composition chimique varie selon les lots analysés. Mais surtout, ils ont trouvé plusieurs impuretés. Et parmi elles, une complètement inattendue, en quantité très abondante, ce qu'on appelle des phospholipides. Or, ces phospholipides permettent aux médicaments d'être plus ou moins bien absorbés dans le tube digestif, selon les personnes. Donc, s'il y en a trop, eh bien, il peut y avoir des effets indésirables. Donc, il n'y a pas d'effet nocebo généralisé. Nous n'avons pas rêvé les effets secondaires, affirme l'Association française des malades de la thyroïde. Alors, est-ce que Merck savait ? Pas sûr. En tout cas, si le laboratoire avait introduit volontairement ces impuretés, il aurait dû faire une déclaration.
Et contacter Merck, le laboratoire armand qui fabrique le médicament, se dit en conformité avec la réglementation et remettant en question la méthodologie de l'étude. C'est le moment de déclarer ses revenus aux impôts. Nous avons jusqu'au 30 mai sur Internet et jusqu'au 21 pour les versions papier. En Corse, 211 804 foyers fiscaux sont concernés avec un taux d'imposition de 45,08% en Corse du Sud, 41,84% en Haute-Corse. Cette année, pour compenser l'inflation, les tranches d'imposition ont été revalorisées de près de 5%. Pour en parler, Gaël Grimard, le directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse, répond aux questions de Roland Frias.
RCFM, l'invité de la rédaction.
Gaël Grimard, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est l'un des faits saillants de cette campagne 2024 de déclaration de l'impôt sur le revenu. Le barème a été revalorisé de 4,8% pour pallier aux effets de l'inflation. Alors, concrètement, en Corse, qui a le statut, on le sait, de région la plus pauvre de France métropolitaine, va-t-on cette année payer moins d'impôts sur le revenu ?
Alors, ça dépend évidemment des revenus. C'est le principe de l'impôt sur le revenu. En fait, la revalorisation du barème, c'est la troisième année que le barème est revalorisé pour pallier aux effets de l'inflation, tout simplement. Et ça a des effets importants. C'est-à-dire que vous savez que c'est un système de tranches. On a 5 tranches dans l'impôt sur le revenu. Vous êtes taxé de 0 à 45% pour les revenus les plus élevés. Donc, le fait d'avoir une revalorisation du barème fait qu'un certain nombre de contribuables vont, par exemple, sortir de l'impôt sur le revenu. Et pour d'autres, ceux qui vont avoir une progression limitée de leur revenu, ils vont avoir une diminution de leur impôt sur le revenu. Donc, d'une manière générale, le barème, la revalorisation, qui est un terme très technique, pour le coup, de l'impôt sur le revenu, ça va avoir des effets concrets que vous allez pouvoir assez vite voir à la fin de votre déclaration en ligne avec le montant des impôts que vous devrez pour cette année.
Alors, la tendance, quand même, devrait être à la baisse selon cette revalorisation du barème. Pourtant, un récent sondage indique que la majorité des Français ressentent une augmentation de leur pression fiscale sous la présidence d'Emmanuel Macron. Alors, comment réconcilier cette perception avec les mesures de réduction fiscale mises en œuvre ?
Alors, c'est une perception souvent très individuelle, la pression fiscale. Ça dépend de l'évolution des revenus, ça dépend de beaucoup d'éléments. Et surtout, un des éléments de la pression fiscale, c'est je contribue au bien commun par l'impôt. Que deviennent mes impôts ? Et cette année, c'est déjà plusieurs années que l'on met en place ce dispositif. À la fin de la déclaration en ligne, vous avez un mini-site qui s'appelle « À quoi servent mes impôts ?» Et c'est un élément important de faire le lien entre ma contribution individuelle par rapport aux revenus que je perçois et ce que deviennent les impôts.
Alors, en Corse, on dénombre 211 804 foyers fiscaux en 2023. Ils sont plus nombreux en Haute-Corse, mais c'est la Corse du Sud qui dispose du taux d'imposition le plus élevé, avec 45%. C'est en tout cas moins d'un foyer sur deux. Est-ce que c'est un particularisme corse par rapport au reste du tissu fiscal français ?
Alors, en fait, c'est plus complexe que ça, parce que la Corse est diverse, en fait. La Haute-Corse, un taux de foyers imposés qui est plus faible que la moyenne nationale, 42%. Alors que c'est l'inverse pour la Corse du Sud, c'est 45%. Donc on voit bien derrière, c'est simplement le niveau de revenu qui est différent entre la Haute-Corse et la Corse du Sud. Donc au final, on n'est pas très loin du niveau national, mais avec des disparités assez fortes entre les deux départements.
Alors, et dans tout ça, est-ce que les Corses sont des bons ou des mauvais payeurs ?
La plupart et l'immense majorité sont des bons payeurs. Déjà pour une raison simple, nous avons le prélèvement à la source, et puis pour une autre raison, c'est que nous travaillons pour que chacun puisse payer ses impôts à bonne date, ce qui veut dire deux choses. Ce qui veut dire que nous nous attachons à accueillir tous ceux qui ont des difficultés financières et qui ne peuvent pas payer. Et là, le conseil que je donnerai à vos auditeurs et téléspectateurs, c'est surtout de venir nous voir lorsque vous avez des problèmes, des difficultés financières, voire des accidents de la vie qui fait que ça devient compliqué de payer ses impôts. Venez nous voir avant que ce soit la catastrophe. On vous accueillera toujours et on pourra vous accorder des délais. Et puis à côté, il y a les fraudeurs. Et les fraudeurs, pour le coup, on s'occupe également des fraudeurs avec des mesures de recouvrement, notamment forcées, des saisies rémunérations. On a un certain nombre de moyens. Mais dans l'ensemble, l'immense majorité des contribuables en Corse payent leurs impôts à bonne date.
Et justement, sur la fraude, 15 milliards d'euros, c'est le montant de fraude fiscale, tout secteur confondu, détecté par Bercy en 2023. Qu'en est-il en Corse ?
Alors en fait, on agit beaucoup en Corse. Je vais vous donner des chiffres de Haute-Corse sur le contrôle fiscal. C'est quelque chose d'important. Là aussi, la fraude fiscale, il y a deux volets. C'est-à-dire que nous admettons le droit à l'erreur, notamment des entreprises, des particuliers, lorsqu'il est de bonne foi. Lorsqu'il est de mauvaise foi, ni vous, ni moi, personne peut admettre une erreur sur la fiscalité. Dans ce cas-là, on a un certain nombre de moyens. Les moyens sont renforcés, des moyens humains. Le nombre de contrôles, on a fait plus de 350 contrôles sur des particuliers l'année dernière. C'est plus de 5,4, je regarde les chiffres, c'est dur le matin, 5,4 millions de droits rappelés. On a contrôlé 90 entreprises, je parle de la Haute-Corse évidemment. Et là, on a récupéré 12,5 millions. Alors, le droit rappelé, c'est simplement l'argent qui était dû, j'allais dire, au pot commun et qui n'a pas été versé et qu'il est dorénavant. Avec un autre axe de travail qui est maintenant de travailler sur l'intelligence artificielle, tous les moyens modernes qui nous permettent de croiser les données et puis de détecter les fraudeurs.
Alors, parmi les autres nouveautés, cette année, il est désormais possible de faire sa déclaration de revenus via smartphone ou tablette sur l'application impots.gouv. Alors, au niveau national, on parle d'un taux de 87,4% des déclarations qui ont été effectuées en ligne l'année dernière. Les contribuables corses s'inscrivent-ils dans ces progrès numériques ?
Alors, tout à fait. 59% des contribuables en 2019, avant Covid, étaient en déclaration en ligne. Ils sont maintenant à un taux totalement comparable au taux national en Corse. C'est un élément important. Et puis, parmi cette déclaration en ligne, alors la plus simple que vous connaissez tous, c'est la déclaration en ligne sur impots.gouv. Nous avons 30% de nos contribuables qui ont juste à valider les revenus et les dépenses que nous avons déjà mis dans l'application impots.gouv. 30%, c'est énorme, hein, et ça va très vite. En gros, en un clic, vous pouvez valider votre déclaration avec un élément fort, toujours assurer et se vérifier lorsqu'on va sur nos sites que l'adresse au 1er janvier de l'année est la bonne. C'est super important pour la bonne taxation et pour bien savoir où vous êtes.
Ben, ce sera notre conclusion, Gaël Grimard. Merci d'avoir été ce matin notre invité sur France Bleu RCFM. Je le rappelle, vous êtes le directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse.
Bonne journée.
Envolée, mauvais départ hier soir pour le GFCA en match aller de la finale des play-offs au Palatine, où défaite 3-7 à 1. Pourtant, les Ajacciens ont donné du fil à retordre aux Azuréens, mais cela n'a pas suffi au grand dam du coach Fred Ferrandez.
Je pense qu'il y avait des choses qu'on pouvait faire un petit peu mieux ce soir, si on avait été un petit peu plus appliqué, mais il fallait faire un match encore plus solide que l'on a fait déjà ce soir. Mais c'est vrai que les gars ont quand même beaucoup donné, ils ont mis beaucoup de cœur, mais il fallait un petit peu plus de tactique pour pouvoir passer.
Ça a été plus difficile au 3e et 4e set.
On a couru après le score tout le temps, donc on a employé beaucoup d'énergie pour pouvoir venir sur chaque set. Et ça s'est senti au fur et à mesure que le match avançait, on a senti qu'on est, physiquement on était impacté quand même.
Vous revenez de loin dans cette première manche.
La déception est un peu là, parce que voilà, on s'empoigne à faire beaucoup de choses, et par moments on fait des petites séquences de 2-3 points qui nous font énormément de mal.
C'est pas fini, un match retour du manche, comment vous allez l'aborder ?
On va l'étudier ensemble, on va voir ce qu'on peut modifier. Il y a quand même pas mal de choses qu'on en a vu ce soir. Maintenant, il va falloir faire un match un petit peu plus compact sur le secteur de service réception.
Deux mots sur ce public qui a été exceptionnel.
Ah, il a été exceptionnel toute la saison et encore plus ce soir. On voulait leur rendre leur dernier match sur une victoire, mais en tout cas, on a tout donné.
Match retour dimanche donc à Cannes. En cas de victoire du GFCA, c'est le Golden 7 qui déterminera de l'accession ou non des Ajacciens en Liga pour la saison prochaine. Au Ladies Open de Calvi, la belle performance hier après-midi d'Alice Batiste. La jeune Corse a franchi le premier tour. C'est la première fois qu'elle s'impose dans un match d'un tournoi aussi prestigieux. Aujourd'hui, elle affronte la 235e mondiale, la Tchèque Linda Klimovíková. À Ajaccio, lumière sur le foot. L'ACA a installé un village du foot hier sur la place Mio en collaboration avec la Ligue professionnelle et la ville. Au programme, des séances de dédicaces de l'équipe, des démonstrations de freestyle et des parcours sportifs en tout genre. L'occasion pour les petits et les grands de se perfectionner grâce aux conseils de certains joueurs professionnels. Léria Marie Amoussou est allée taper dans le ballon et a croisé de futurs grands joueurs.
Des joueurs très prometteurs, en tout cas, comme Olivier, 9 ans, qui a mis un nombre de buts incalculables.
J'ai pas compté, mais plus que 10 en tout cas.
Ah ouais?
Bah, on s'entraîne, au bout d'un moment, ça paye.
Un peu plus loin, on apprend la précision et le cadrage des tirs.
T'as droit à 3 tirs, en fonction d'où tu tires, t'as le plus de points. Plus tu tires au niveau de la lucarne, plus tu vas avoir de points. On cumule les 3 scores. Ça marche? Allez, c'est parti.
Dominique, 11 ans, est licencié à Bocconia, nous s'y est essayé avec ses copains.
Pour s'amuser, faire des défis. Le meilleur, il donnera des gages. Le record, c'est 210. Moi, j'ai fait 200.
Et pour se perfectionner, les footballeurs en herbe reçoivent les conseils des joueurs du centre de formation.
Essaye de courir en même temps, si tu peux. Voilà, parfait, comme ça. À droite, tu peux avancer. Hein. Essaye de marquer. Ah, dommage.
Nicolas Aiello, joueur à l'ACA en 19 ans nationaux et National 3.
On est là pour les guider, les aider s'ils ont besoin d'aide, pour qu'ils s'amusent et pour qu'ils partagent un bon moment ensemble. C'est le but, hein, qu'ils prennent du plaisir, qu'ils s'amusent, qu'ils soient conviviaux.
Et pour s'amuser, il n'y a pas d'âge. De Souhei, 4 ans.
Il est venu faire le foot comme le basket.
Comme le basket, mais avec les pieds?
Oui.
À Daniel Ebouffan, le président du club.
Tant que je peux, je m'amuse avec eux. J'ai essayé plusieurs ateliers, je me suis pas mal débrouillé. J'invite tout le monde à essayer de faire mieux.
Si vous souhaitez relever le défi, rendez-vous samedi après-midi au stade Michel Moretti avant le match contre Caen.
Et sinon, il n'y a pas que le foot dans la vie. La Corse est aussi et de plus en plus une terre de rugby. Après l'Afrique du Sud venue faire sa préparation dans l'île avant les championnats du monde, ce qui lui a d'ailleurs réussi. Ce sont deux équipes internationales de rugby à 7 qui vont débarquer cet été en Corse pour préparer les Jeux Olympiques. L'équipe masculine des Samoa et l'équipe féminine des Fidji. Une réunion avait lieu hier à la Ligue Corse de rugby pour finaliser le séjour. Reportage signé Alexandre Sangoulin.
La Corse, je pense que vous y serez très bien pour cette préparation des JO.
Jean-Simon Savé, les présidents de la Ligue Corse de rugby.
Les Fidjiens, les Fidjiennes, à 15 à 7, sont pour moi, pour nous, de véritables équipes avec des valeurs qui sont ancrées comme des Iliens, des Iloises, comme la Corse, on va dire.
Lui veut développer le rugby en Corse.
Le Seven, encore une fois, est pour nous une nouvelle pratique de rugby que nous voulons développer et faire avancer.
Les Samoa, équipe masculine, seront chez nous début juillet, entre le 1er et le 18, date officielle de l'entrée au village olympique, tout comme les Fidji, féminines. Écoutez leur coach.
My name is Sayasi Fuli. I'm the head coach of our women's team. The collaboration and support that we can forge today.
La collaboration et le soutien que nous forgeons ici aujourd'hui peut aider notre équipe pour les Jeux Olympiques de Paris. Au-delà des grandes déclarations et de la philosophie, le concret, c'est l'affaire de Philippe Couchot de la Ligue Corse.
La seule chose, c'est que maintenant, moi, j'ai besoin d'avoir un programme assez précis de ce qu'ils veulent faire en termes d'entraînement, de musculation, de piscine, pour qu'on cale un programme par rapport à tout ça. Et aussi d'avoir des dates un peu plus précises, parce que là, pour l'instant, on est du 1 au 18. Je pense que ça va être avant, parce que le 18, c'est l'entrée au village olympique. Donc il faudrait qu'on ait des dates précises aussi pour les vols.
Même s'il reste donc quelques détails à régler, la Ligue Corse de rugby est en train de se faire une réputation internationale pour l'accueil des équipes professionnelles.
Et tout autant que la capacité des équipes à se surpasser après être passées en Corse, pour Julien Boulakoro, le référent en France des joueurs fidjiens, cette préparation sur l'île est une véritable chance. Et puis sachez qu'une soirée de gala de la Ligue Corse de rugby aura lieu le 17 mai prochain en présence de plusieurs joueurs fidjiens qui évoluent dans des clubs français. À Ajaccio, il y a désormais une aire de jeu pour les enfants à l'entrée de l'hôpital. L'inauguration, c'était hier, en présence de nombreuses personnalités politiques dont Gilles Simeone, Stéphane Sbraj et de personnalités religieuses comme le cardinal Bustillo et le père Constant, mais aussi d'entrepreneurs membres du Rotary Club. Certains d'entre eux ont aidé le Le club a financé ce projet à plus de 105 000 euros. Retour sur cette initiative avec Sandra Peraldi, la présidente du Rotary Club.
On a vu éclore l'hôpital d'Ajaccio, on a vu que ça ressemblait, c'était un très bel hôpital, mais qui reste un hôpital. Et ce que l'on a voulu faire, c'est humaniser tout le service, tout le pôle de la mère et l'enfant. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut les aider? Et on les aide en créant cette aire de jeu. L'idée part d'un membre de notre club qui, en visitant l'hôpital d'Ajaccio, a vu qu'on pouvait créer cette aire de jeu. Donc on a dit, ok, on y va, on crée cette aire de jeu. Ça a été quand même un travail qui a duré 2 ans et qui nous coûte 106 862 euros. Et pour en se rendre dans cette aire de jeu, c'était le but, tous les enfants de Lille en fait, parce que c'est l'hôpital d'Ajaccio, mais c'est l'hôpital au minimum de toute la Corse du Sud. Pour récolter des fonds, nous vendons des roses, nous vendons des clémentines, nous avons nos propres actions. Une vente aux enchères de vin chez Nicolas Strombogne, voilà, on a récolté des fonds comme ça. Mais là, c'est la première fois que l'on fait appel à des mécènes.
Opération réussie pour l'hôpital et grande satisfaction donc pour son directeur Jean-Luc Pêche.
C'est presque un aboutissement puisqu'on a rendu le service de pédiatrie, la maternité, dans des locaux qui sont des locaux, je dirais, dignes de ce nom, de très haut niveau. Et avec cette aire de jeu, ça permet aux fratries notamment de venir passer un peu de bon temps. C'est vrai que c'est jamais simple de séparer les fratries, même lors d'une visite, qui sont des visites longues, hein, quand les enfants sont hospitalisés, ou des enfants en consultation. Ça permet aux fratries de venir sans problème avec leur maman ou leur papa ou les deux, dans de bonnes conditions, et puis en plus dans un endroit qui est quand même un endroit assez sympa. 7 à 8 mois par an, on peut vivre dehors. Donc ça permet de passer un temps long avec le patient, le petit patient hospitalisé. Et puis ça permet peut-être lui-même, s'il le peut, de venir un petit peu prendre un peu d'air, un peu de bon temps. Et puis je veux dire, à la fratrie, de pouvoir patienter sans être, on va dire, un peu difficile à manager pendant la durée de l'hospitalisation.
RCFM, Maréladine.
Les pêcheurs corses seront de nouveau attendus à 7 dans 2 ans. Mardi, dans Maréladine, Pierre-Jean Campocasso, vous nous annoncez qu'un programme de conservation du patrimoine maritime allait démarrer en Méditerranée à l'issue de l'escale à 7. Voyons à présent le bilan du côté des pêcheurs corses avec Jérôme Souzine.
Nous évoquions cette semaine un retour avec la direction du patrimoine d'Escale à 7 sur cet aspect échange patrimonial, le patrimoine de la mer. Et puis on voit ce côté maintenant des échanges au niveau des pêcheurs. Daniel Defusco, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous êtes les pêcheurs de Corse étaient très présents à 7 pour cette grande opération. Qu'est-ce qu'on peut en retenir?
Oui, effectivement, la Prodomie d'Ajaccio et le comité des pêches ont réalisé ce déplacement. Les pêcheurs d'Ajaccio sont beaucoup impliqués, ce qui fait qu'on a eu un stand, un très beau stand. En plus, la Corse était invitée d'honneur cette année d'Escale à 7.
Alors, est-ce qu'il va en rester quelque chose? Est-ce qu'il y a une suite à ça? Est-ce qu'il y a des échanges qui vont se prolonger d'une façon ou d'une autre?
Avec les pêcheurs d'Occitanie, on est en contact régulièrement. Je suis en contact avec le président d'Occitanie. Qui est le président du comité régional. Je le vois souvent à Paris dans les réunions ou ailleurs, ou à Marseille. Donc on échange régulièrement avec les pêcheurs. On échange aussi avec toutes les instances de la pêche. En général, on a toujours cette relation-là. Donc il en restera quelque chose. Il y aura effectivement un rendez-vous déjà est donné pour dans 2 ans retourner à Escale à 7. On a été encore invité. Donc je pense qu'on sera présent dans 2 ans. On rencontre toujours sur les stands et ailleurs, des pêcheurs, des représentants de la pêche. Donc, il en reste quelque chose. Après, c'est pas dans ces moments-là. C'est plus des moments festifs, c'est plus des moments de rencontres, mais plutôt amicales que des rencontres de travail. Mais ça prépare des rencontres de travail qui auront lieu un peu plus tard, c'est sûr.
Donc, on a bien compris, rendez-vous dans 2 ans à nouveau à 7, Daniel Defusco. Merci beaucoup.
Merci à vous.